Bonjour à tous et bienvenue sur Istasia.fr pour notre 42e podcast entièrement consacré au 23e Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul qui s'est tenu du 7 au 14 février 2017 et où l'on était en compagnie d'Elias et de Nicolas pour couvrir donc cette nouvelle édition et notamment les films de la compétition officielle qui s'appelle ici Visage des Cinémas d'Asie Contemporain. Sur laquelle on va revenir, on va vous donner notre avis sur les 7 films que l'on a vus. Et on reviendra en deuxième partie de ce podcast, qui va être assez court, une petite heure, notamment en compagnie de Bastian Merson, sur les maîtres du cinéma sri lankais, une sélection consacrée au cinéma sri lankais. Donc Bastian, c'est le chef programmateur de cette sélection, et sur nos coups de cœur dans les multiples sélections parmi pratiquement la centaine de films qui ont été projetés cette année. Mais on va commencer donc par évoquer les films et donner notre avis sur les films de cette compétition Visage des cinémas d'Asie contemporain, en commençant par le film indien. Hotel Salvation est le premier long métrage de Subhashish Bhutiani, qui est aussi le premier film en compétition que l'on a vu à Vesoul, au 23e Festival International des Cinémas d'Asie cette année. Elias, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle et ce que tu en as pensé?
Alors, en gros, ça parle donc d'un grand-père de famille qui a presque 80 ans, qui décide en fait qu'il est temps pour lui de mourir. Et qui donc se rend dans un hôtel, dans une ville sainte, de ce que j'ai compris, près du Gange, en Inde, pour ainsi en fait obtenir son salut.
À
Bénarès. Enfin, obtenir son salut divin et de se laisser mourir en quelque sorte, dans un hôtel dédié à ça, qui est donc un lieu assez particulier. C'est donc son fils avec qui il a une relation qui s'est un peu effilochée au fur et à mesure des ans, qui va donc aller vivre ses derniers jours dans cet hôtel. Et donc profiter de la vie des derniers moments avec ces gens avec ce fils qui va du coup reconstruire une relation qui s'est un peu perdue et où il va aussi du coup pendant ces quelques jours reprendre au final goût à la vie pour mieux se préparer à la quitter.
Est-ce que le film est à la hauteur de cette belle thématique?
Et ben en fait le problème c'est que c'est une thématique tellement belle qu'elle a été vraiment extrêmement et très souvent faite et parfois avec plus non pas de talent, parce que c'est un film qui est très bien fait, dans le sens que c'est un film, il n'y a pas d'erreur technique, il y a des plans plutôt beaux, le dernier plan est vraiment très beau, et c'est coloré, enfin ça reste un film indien, donc il y a toujours ce petit côté un peu... enfin ce petit côté qui nous plaît, enfin qui moi me plaît dans pas mal de films indiens modernes que je vois, et qui c'est ce côté très coloré, très, très vivant, mais effectivement c'est un film qui sonne vraiment comme un film indépendant, comme il y en a beaucoup dans beaucoup de pays, avec le même type de mise en scène, les mêmes types de scénario, et ça rend le film pas mauvais, mais assez inintéressant. Enfin, on sort du film, on se dit, ouais, bon, bah voilà, et on l'aura oublié d'ici 2-3 jours, quoi.
C'est comment, oui. C'est vrai que c'est étrange, parce que c'est un film indien, on s'attend à certains codes, à certaines choses, et finalement, c'est plus les codes, effectivement, du cinéma indépendant international, on va dire, qu'on retrouve. Dans ce qu'il a d'un peu convenu. Et c'est, voilà. Effectivement, c'est pas inintéressant. On passe plutôt un bon moment. Le dernier plan est très très beau. Celui de
bah, plan séquence. Dire,
plan séquence. Voilà, un plan séquence sur un enterrement qui est vraiment très touchant. C'est dans le résumé du film pratiquement, donc cette histoire. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté voilà, où on en sort, on l'oublie.
Mais c'est vrai que, enfin, je fais une parenthèse, parce qu'aujourd'hui, dans la sélection Campagne d'Asie, j'ai vu La Saison des Femmes, qui est un autre film indien. En fait, et ce qui est vraiment bien dans ce film, comparé à Hotel Salvation, c'est que La Saison des Femmes reprend les codes de Bollywood. Et les adapte dans un cinéma et les adapte et les intègre dans un cinéma indépendant mondial.
C'est surtout les thématiques des deux films sont assez différentes, mais ce sont aussi des thématiques les deux qui sont, comme tu l'as dit, de plus en plus abordées au cinéma indien. Et en fait, le problème de Hotel Salvation, c'est qu'il sort jamais des rails de sa programmation, de son programme initial. Alors que justement, La Saison des Femmes ose plein de choses quoi, dans la manière de filmer, de la manière de pousser son histoire vers certaines choses ou d'autres. On parlait par exemple du côté un peu sexualisé, très sexualisé un peu de La Saison des Femmes, qui est une chose qu'on ne s'attend pas forcément dans ce type de film-là. ce côté aussi à la frontière du mystique qui est, alors que bon, il y a aussi ces choses-là dans Hotel Salvation, mais c'est très pauvre au final, ça va pas très loin. C'est même un peu frustrant par moment parce que tu te dis, ah, ça y est, le film va devenir vraiment intéressant, il va prendre une direction un peu différente. Par exemple, à un moment, il y a une scène où le fils se balade dans cet hôtel la nuit dans le noir, et ça fait, voilà, pendant quelques instants, ça fait un petit côté film de genre, et ça, voilà, ça dure quoi, 30 secondes, et c'est assez pauvre, et au final, c'est frustrant, quoi, ça sert à rien. Donc voilà.
Et pour renforcer d'ailleurs ce côté international, j'étais en train de lire la biographie de
De Choubachiche.
de Choubachiche. Et du coup, c'est vrai qu'il a ce caractère très cosmopolite. Il a grandi dans une
Oui,
en
bien sûr.
Himalaya. Il a fait ses études à New York. Il a eu un prix pour son premier court-métrage à Venise. Et d'après ce que j'ai vu dans le générique, c'est Venise qui a donné de l'argent pour la production d'Hotel Salvation. Donc il y a ce côté-là, effectivement, où ouais, c'est le cinéma Sundance
Oui,
international
voilà,
comme.
là, je suis désolé, mais la scène, enfin, il y a une scène à un moment où, où le grand-père boit avec sa petite fille du lassi coupé au haschich. Et cette scène, en fait, j'ai l'impression d'avoir vu cette scène dans 50 milliards de films américains. Le vieux qui fume un joint avec son petit-fils et qui fait, ah, c'est marrant de fumer les joints, ils sont là, il y a un feu d'artifice derrière, on est content,
Oui,
la
il y a
vie c'est beau,
le rapprochement
etc.
entre les deux générations qui
Avec
s'explique du père parce que.
la musique un peu
Ouais.
indie en fond, le feu d'artifice en fond, enfin, c'est vraiment, c'est pour être un film.
Voilà, donc Hotel Salvation
C'est quand même pas mal.
de Choubachiche, c'est quand même pas mal, c'est une bonne conclusion. Boutiani donc était en compétition au FICA de Vesoul et bah finalement on va dire qu'on a préféré la saison des femmes qui était qui est disponible en DVD et qui était aussi projetée à Vesoul cette année
Section campagne
dans
d'Asie.
Campagne d'Asie. The Dark Queen représentait cette année l'Irak au Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul. C'est le troisième long métrage d'Hussein Hassan, dont on découvre le cinéma avec ce film. Elias, comme tu ne parles pas beaucoup au podcast général, vu que tu n'es pas là, est-ce que tu peux nous présenter le film
Alors,
et nous dire ce que tu en as
en
pensé?
direct du Formule 1 de Vesoul, du coup. The Dark Queen, c'est donc un film irakien qui parle donc d'une femme qui est promise à un homme qui est très amoureux d'elle dans un petit village au Kurdistan. Et un beau matin, il y a donc l'État islamique, donc Daesh, qui vient dans le petit village, l'envahit, tue des gens et enlève donc toutes les femmes du village qui vont être ensuite revendues à des riches marchands de beaucoup de choses, donc pour donner de l'argent à Daesh. Et du coup, ils réussissent à sauver, c'est pas un spoiler, hein, ça se fait au bout d'un 20 minutes de film, donc c'est pas du tout un spoiler. Ils réussissent à sauver donc
Qu'est-ce
cette
qui spoil?
femme, donc la femme du héros qui a donc été prise par Daesh pour être vendue. Et elle revient en fait totalement traumatisée de son séjour dans l'État islamique, ce qu'on peut comprendre en soi. Et donc le reste du film, donc leur écart qui reste, c'est du coup comment vivre après avoir vécu l'horreur, comment réussir à reprendre une vie normale. Et en mêlant à ça une petite description des camps de réfugiés au Kurdistan et en Irak.
Oui, parce que ça a été tourné
Dans des camps de
dans un
réfugiés.
vrai camp de réfugiés au Kurdistan irakien. C'était une transition pour que tu puisses donner
Donc,
ton avis sur
mon
le
avis.
film.
Et justement, du coup, je vais donner mon avis, mais en fait, qui est l'avis assez unanime de nous trois, donc de ceux qui l'ont vu à Vesoul, donc moi, Nicolas et Victor. En fait, c'est que c'est un film qui, à la base, devait être un documentaire, selon les dires du producteur. Mais au vu du manque de témoignages de femmes voulant témoigner face caméra sur ce sujet, ils sont orientés vers la fiction.
C'était sur des à la base, c'était sur des femmes enlevées par Daesh, revendues, et donc qui pouvaient revenir effectivement donc dans des camps de.
Et du coup, au final, comme il n'y avait personne pour témoigner, on s'est mis vers la fiction. Et le problème, c'est que ça se voit, parce que autant le côté documentaire est assez réussi, il y a des belles images des camps de réfugiés, des réfugiés, de leur vie, etc.
Enfin, belles images,
Entre
des images
guillemets. Intéressantes.
ouais, qui sont nécessaires, on va
Oui,
dire,
voilà, voilà, voilà,
qui
c'est pas
peuvent
de
être
belles images,
importantes, mais.
effectivement. Des images intéressantes. Mais le côté fictionnel est vraiment totalement raté. C'est pas très bien mis en scène, pas très bien écrit, pas très bien joué. Il y a vraiment des scènes qui sont montées et filmé avec les pieds quasiment, on va le dire comme ça, et dans des scènes qui se veulent vraiment à presque grand spectacle, notamment l'attaque de Daesh au début, mais au final, ils n'ont pas l'argent. Il y a trois pauvres mecs cagoulés qui arrivent avec leur AK, c'est quand même assez pitié.
Nicolas, là-dessus.
En fait, le gros problème du film, justement, c'est cette séquence d'attaque de Daesh au début du film. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le réalisateur a voulu filmer ça comme un gros film américain.
Sauf il y a deux scènes de guerre. Il y en a une vraiment sur le.
Mais c'est celle principale, celle qui est au début, qui est elle qui supposait te faire entrer dans le film, quoi. Et te prendre à la gorge, hein, c'est le but, normalement, vu qu'elle est placée là. Et le problème, c'est que ça marche pas du tout, parce que déjà, elle veut être filmée comme un gros film américain, sauf qu'il n'y a pas de moyen d'un film américain, donc ça sent tout de suite. Et au niveau de la mise en scène, il y a un gros problème de spatialisation. Alors je sais pas, parce que j'ai l'impression que le réalisateur a pas voulu montrer frontalement la violence, les morts et tout ça, au cours de cette scène de guerre, et du coup ça marche pas, parce que au niveau de la spatialisation de la scène, on sait pas du tout où on est, ça filme un peu n'importe comment, le montage est un peu complètement désordonné, du coup tu comprends pas vraiment ce qui se passe.
Je suis désolé, même ça, pour moi ça ressemble presque à une parodie quand on voit les femmes qui sont enlevées par Daesh et qui sont toutes en train de pleurer et qui sont en train de surjouer, alors qu'il y a une première scène où on nous présente
mais du coup,
un mariage.
Du coup c'est supposé être horrible et tu ressens pas du tout l'horreur, en fait, c'est parce que ça annule complètement l'horreur de la scène, alors ce qui se passe est absolument terrifiant, quoi. Et moi j'ai pas du tout ressenti de terreur à ce moment-là, et c'est un peu le problème, quoi. La mise en scène n'est pas du tout en accord avec ce qui se passe devant
et ça c'est un vrai souci de savoir ce que le réalisateur veut montrer ou pas. Il laisse par exemple tout le calvaire de la femme hors champ, il laisse la violence hors champ, il montre les conséquences, il décide de montrer des scènes de guerre qu'il peut pas montrer, il décide de montrer Daesh alors qu'il peut pas les représenter, ils sont masqués. Alors je sais pas si c'est un choix de mise en scène, une nécessité du fait qu'il voulait pas qu'il y ait des acteurs qui soient identifiés là-bas avec des combattants de Daesh par exemple, mais du coup c'est quelque chose qu'il veut pas montrer et qu'il montre quand même, et pour moi ça pose un vrai souci dans ce qu'il montre du réel, puisqu'il y a des vraies scènes de camp, il y a des vraies scènes de qui sont prises du réel, et cette fiction en fait va à l'encontre du fait de montrer quelque chose de vrai, mais appauvrit complètement les images qui nous parviennent du réel. Et du coup c'est un vrai problème moral que pose le film, puisque les images qu'on garde de cette situation géopolitique qui est dramatique, c'est des images d'une fiction qui est extrêmement pauvre. Et donc là, cet appauvrissement du réel fait que c'est un vrai souci, en tout cas, de mise en scène, et pour ce film, en termes de responsabilité de morale et même politique, je pense. Donc voilà, c'est un film qui est sur lequel on a pas mal discuté en sortant, et qui est très très problématique. C'était intéressant de le voir à Vesoul, mais c'est vrai que je trouve ces partis pris de mise en scène.
Et pas que de mise en scène.
Qui sont importants, mais qui sont presque irresponsables pour moi.
Dans le scénario, moi j'ai vraiment l'impression que, au final, Daesh, c'est un peu une excuse pour nous foutre un drame romantique sur un amour perdu parce que la fille devient folle. Enfin, ce que je disais, c'est que tu mets ça aux USA avec une fille qui se fait une crise de folie parce que son père est mort ou a tué sa mère, etc. Au final, le film pourrait être exactement pareil. Daesh, ça dans son film, c'est un prétexte.
Non, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est forcément le sous-texte aussi de cette communauté dans les camps où les hommes préfèrent dénigrer les femmes qui reviennent complètement fracassées de ce qu'elles ont vécu dans les camps de Daesh.
Oui, le père
plutôt que
préférait
de les aider vraiment ou de les aider à redevenir à ce qu'elles étaient avant, même si c'est quasiment impossible puisqu'elles ont vécu.
Mais du coup, ça, c'est un problème de communauté.
Oui, voilà, mais ça aurait pu être intéressant d'explorer ça, mais au final, c'est présent dans le film, mais ça va pas très loin, quoi.
Et pour être honnête, le film redevient intéressant pour moi dans le dernier tiers, qui se concentre effectivement sur le drame familial, sur la manière dont cette femme est vue par la communauté kurde, donc dans cette petite communauté qui est recréée. Et là, il y a quelque chose d'assez fort qui se recrée. On apprend notamment qu'elle était enceinte suite au viol qu'elle a subi. Et donc, une micro-histoire qui va se centrer sur ces liens-là, sur la réaction des gens, va se recréer. Et là, on est vraiment dans un film qui redevient intéressant, qui est filmé du point de vue de l'intime. C'est ce qu'il peut faire, ce que le réalisateur peut faire, et filmer le géopolitique du point de vue de l'intime. La géopolitique, il ne peut pas la filmer de manière spectaculaire comme il essaye de le faire.
Non, mais par exemple, dans la séquence, justement, on en revient à la séquence initiale de bataille, il aurait dû clairement rester avec les personnages principaux. Alors on les voit, mais c'est au milieu de plein d'autres scènes, de plein d'autres personnages qui. Alors, il ne fallait pas forcément ne pas les filmer, mais ça aurait été beaucoup mieux que ce soit uniquement en arrière-plan et qu'on soit vraiment en immersion
Bah, je
auprès
pense
de ces personnages-là,
que
être vraiment purement dans la fiction et pas faire un espèce de mélange entre des images documentaires au final ou.
ce qu'on. Je pense que ce qu'un réalisateur ne peut pas montrer, il ne doit pas essayer de le montrer. C'est déjà c'est
Oui.
dans des principes de mise en scène. Et donc là, on arrive dans une contradiction effectivement formelle qui est, bah, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais qui est extrêmement dérangeante, je trouve. Quelque chose à
Non,
rajouter sur The Dark Queen, donc c'était
j'aimerais
The.
beaucoup penser ce que. Enfin, j'aimerais beaucoup voir ce que Rivette en dirait. J'y pensais, je l'ai dit tout à l'heure que j'y pensais, j'ai pas pensé à l'article de Capot, enfin sur Capot qui est très connu, du coup j'en parlerai pas, mais je serais très curieux de voir ce qu'il en penserait.
Eh bien, nous ne le
On le
saurons
fera jamais.
jamais. Voilà, c'était donc The Dark Queen de Houssen Hassan, donc Ofika, en direct du F1
C'est
du
moins
FIKA.
bien.
Nous poursuivons donc en allant en Indonésie avec Emma, ou Mother, ou Atira. En fait, c'est le même film. C'est le film donc indonésien de Riri Riza. On va dire qu'après l'abjection du film irakien, on est plutôt dans une sorte de néant. Voilà, c'est un peu l'impression qu'on a tous après sa projection. Alors, on va aller très rapidement parce qu'on n'a pas trop envie non plus d'enfoncer trop le film, mais on va quand même le présenter. Peut-être Elias, juste résumer ce film qui a été montré au FICA, donc.
Yes, comme c'est mon rôle de résumer les films. Alors, Attira et Mamoser, en gros,
Donc, le titre, c'est on va l'appeler Mother.
c'est l'histoire, enfin, est-ce qu'il y a même une histoire, je sais pas, enfin, c'est juste une femme qui est enceinte et en fait son mari a une autre femme et du coup il va la voir de temps en temps et elle est triste. Et à côté, t'as des histoires avec son fils qui est amoureux d'une fille qui veut pas de lui et voilà.
Ouais, là, tu as raconté déjà 40 minutes de film, à peu près résumé en 2 minutes. Alors, ton avis en 2 mots?
Bah, t'as bien dit en fait, c'est le néant. C'est pas un film détestable, c'est pas un. Le réel a l'air très sympa. Hein. C'est vraiment un film qui pourrait être mignon. Honnêtement, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien la toute première scène, juste après le générique du début, qui
Pareil.
est très bien montée avec juste des espèces d'images.
Je vais revenir dessus,
Donc, ça se passe dans les années 50,
Oui.
du coup, ouais.
Donc, espèces d'images traditionnelles indonésiennes sur un peu
Ouais.
les traditions et ce qui se passe là-bas. Et. Espèce de mise en place dans le cadre spatial et temporel qui est très bien foutu.
L'image en mode un peu archive, voilà, alors je tourner avec une caméra.
Non, celle de juste après, pas le
Il y a celle de
générique.
juste après,
Voilà,
il y a
pas
le
le
générique,
générique,
les deux en
d'accord.
fait, mais
Ouais, les
vas-y,
deux.
continue.
Et mais après ça, c'est juste. C'est pas qu'il se passe rien en fait, c'est qu'on s'en fout de tout, quoi. Il y a. Les adversaires sont pas attachants, on se demande pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font.
Il y a un
Non,
côté
les.
très cryptique aussi parce qu'il y a ce côté un peu fresque, voilà, avec des balises historiques sur l'histoire de l'Indonésie, qui sont montrées avec les différentes crises, etc. Finalement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein, la manière dont une histoire intime en fait rencontre la grande histoire. Après, c'est vrai qu'il y a, moi, ça m'a fait penser un peu à du Tran Anung. Sans la radicalité formelle qu'on trouve chez Tran Anung comme vidé de la substance qui peut faire un peu l'intérêt des films de Tran Anung, même si moi je trouve que c'est discutable. Mais voilà, au moins il y a cette radicalité du geste chez Tran Anung que là on retrouve même pas. Ce qui fait que pareil, qu'on en a déjà parlé pour Hotel Salvation, mais il y a plein de plans qu'on a l'impression d'avoir vu 40 000 fois dans tous les films voilà, un petit peu indépendants, asiatiques. Qui montre une
Même
certaine beauté comme
américain ou
ça.
européen. Hein.
On va répéter tout ce qu'on a dit
Ouais,
sur
c'est
Hotel
ça.
Salvation. Après, moi, je trouve que c'est encore plus insignifiant qu'Hotel Salvation. Du coup, qu'il y avait un petit côté sympathique, Hotel Salvation, en y
Bah, au
revenant.
moins, Hotel Salvation, il y avait l'idée qui était marrante, enfin, qui était marrante, non, mais genre, il y avait l'hôtel, c'était
Non, mais il y avait quand
intéressant.
même des vrais personnages, mais
Oui,
bon, ça,
voilà, il y
c'était
avait
pas
le personnage
forcément.
en
Donc, on
mieux.
revient sur Hotel Salvation, en fait, c'est pas si mauvais.
Ah ouais, au pire.
Oui, après avoir vu ce film, c'est sûr. Ouais.
Mais là, il n'y a rien, quoi, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de. Y a
Non,
pas
il y a juste.
d'histoire, y a rien, c'est rien, c'est juste rien.
En
Ce
fait,
film, c'est rien.
Nicolas, un mot
sur la
sur
première
le.
scène, je voulais revenir sur la première scène, bon, pas le générique, mais celle d'après, où il y a une espèce de montage comme ça, de ralenti un peu langoureux sur une musique traditionnelle, un peu rythmique comme ça, qui m'avait, enfin, que j'ai plutôt bien aimé, quoi, qui m'avait donné une bonne impression dès le départ du film. Et je m'attendais à ce que ce soit un peu
le
ça
métrage
tout le film,
du
quoi.
Générique est sympa aussi. Ouais, le côté non, très moderne du jaune sur les
ouais,
images d'archives,
aussi,
j'ai bien aimé. La deuxième scène, ça commence bien.
Et puis voilà, mais je m'attendais à ce que ce soit un peu comme ça, une espèce de film rythmique avec de la musique traditionnelle. Ça, c'est pas mal de raconter une histoire comme ça, narrativement parlant, ça pouvait être pas mal. Mais au final, ça part un peu dans tous les sens, ça va ouais, pas jusqu'au bout.
Ça va nulle part.
Ça va nulle part, en fait. En fait, t'as l'impression que les personnages, ils pleurent, ils bouffent, et ils font des tissus pendant tout le film, quoi. Ça, y a pas grand-chose d'autre.
Et filmé de manière très académique,
voilà,
où tu sais quand il y a telle scène qui est un espèce de
avec
passage
de la musique
obligé,
tout le temps, sauf qu'au bout d'un moment, ça devient
de musique,
vraiment
ouais,
chiant.
Bah, c'est le côté, ouais, ce côté d'un cinéma très sensoriel. Tu avais parlé de Terrence Malick, on peut penser ouais, à du Wong Kar-wai, il y a du...
Sauf que ça marche pas du tout, en fait.
Mais on n'est pas du tout à ce niveau-là d'esthète.
Il y a des travelling tout le temps, mais des travelling qui servent à rien, enfin... Dès qu'un personnage bouge et un travelling, enfin c'est...
Et en fait, c'est comme s'il prenait ces références-là et qu'il n'en gardait que les lieux communs dans son cinéma. Par exemple, une scène, voilà, alors que tout est très léché, tout d'un coup, on va avoir des ados qui jouent au foot avec, bien sûr, quelqu'un qui va insulter le père du personnage. Et donc, il va y avoir une bagarre qui est très mal, très mal chorégraphiée, d'ailleurs.
Et cette histoire
tout
de...
suite. Et du coup, là, on est en caméra portée, par exemple. Voilà, on voit il y a du mouvement. Et du coup, chaque plan est très attendu dans sa manière d'être filmé.
Ouais. Puis il y a cette histoire de... Donc, le fils de la mère qui... logique jusque-là, mais qui le fils du personnage principal qui à un moment s'amourage d'une autre étudiante et pareil l'histoire on a l'impression qu'elle a inséré comme ça dans le récit sans
c'est
aller
ça,
plus loin
ça dure un quart d'heure
elle disparaît du film comme
et elle
ça
disparaît quoi on t'en fout
ouais,
c'est... Quoi,
ouais ça mène on comprend ce qu'il veut dire hein, mais du coup ça mène
ah,
pas,
c'est
pas,
les rumeurs
pas grand-chose,
quoi, hein. Le fatalisme des rumeurs qui empêche des personnages de vivre en fait, sauf que là ils vivent même pas, enfin ils vivent pas du film quoi, c'est mortifère au final ce film, alors que ça veut célébrer la vie. Et au final on comprend où il va en venir, oui, avec le côté le multimariage quoi, la polygamie là-bas à l'époque.
C'est mal vu.
Mais voilà, c'est fou,
le multimariage.
C'est super, ouais, enfin, ça va pas très loin quoi. Ça.
Ok, bon bah voilà pour Mother de Riri Riza.
C'est nul sa mère.
Nous allons rester du côté des mères avec Her Mother et au Japon. Pourquoi ça vous fait rire? Donc c'est le film premier film japonais de la compète de Sato Yoshinori, premier long métrage de fiction avec Going the Distance du coup qui passe après notre départ. Donc Sébastien qui va nous en parler dans son coup de cœur un peu plus tard, et on aura une interview du réalisateur Harumoto Yojiro. Donc là, je parle de Going the Distance, qui est le deuxième film japonais. Mais en fait, on va parler du premier film japonais, qui est Her Mother, de Sato Yoshinori. Alors, c'est qui cette mère, Elias?
En gros, le film, c'est... au début, il y a une gamine qui s'est tuée par son petit copain, pour des raisons...
son mari, même.
Quoi? Par son mari, devant sa mère. Enfin, pas devant, mais dans la maison de sa mère est là, elle n'arrive pas à empêcher le geste. Donc il y a un jugement. Le mari est évidemment condamné à mort parce que au Japon, il y a encore la peine de mort a priori. Selon le film, moi je ne sais pas, mais je l'ai découvert là-dedans, du coup, il y a encore la peine de mort au Japon. Donc le mari est condamné à mort. Cependant, le temps passe et 6 ans plus tard, on retrouve donc la mère, toujours attristée de la mort de sa fille évidemment, qui se demande pas si la peine de mort, au final, même si c'est une punition pour un crime horrible, ne serait-ce pas quand même une punition absurde? Parce que prendre la vie pour quelqu'un qui a déjà pris la vie, ce serait pas assez absurde. Du coup, la mère va tenter de se battre pour au final ne pas faire condamner à mort celui qui a tué sa fille.
Donc là, la thématique est assez intéressante parce qu'il y a effectivement l'incompréhension de son frère qui la croit folle et qui en plus a des vues sur la maison familiale, etc. Donc ça l'arrange bien. Son mari, elle n'est plus avec son mari, qui lui était à fond pour la peine de mort, et qui du coup a trouvé une espèce de spiritualité auprès d'un groupe protestant.
C'est
que c'est
un afro-connard aussi.
Tout à fait. Mais en vrai, ça l'est resté, parce qu'il est prêt à pardonner juste pour oublier. Mais du coup, il comprend pas sa femme quand elle dit qu'elle n'est pas pour la peine de mort. Et après, elle non plus n'est pas vraiment... Elle est pour cette absurdité, mais parce qu'elle pense que c'est aussi le seul moyen de rester en contact avec le meurtrier de sa fille et de comprendre ses motivations et de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Après, c'est vrai que dans le message, on peut que que féliciter le réalisateur de remettre en question voilà, l'espèce de consensus qui semble y avoir autour de la peine de mort au Japon et d'interroger les différentes perspectives. Après, c'est très très maladroit, c'est presque grotesque sur un final où ça devient absolument n'importe quoi. C'est mal filmé, c'est mal monté. Donc déjà, ouais, visuellement et cinématographiquement, le film peut vraiment vraiment rebuter. Ou si on passe l'espèce de manifeste contre la peine de mort, il y a vraiment rien dans ce film qui est assez.
Mais je demande vraiment, et je veux bien une réponse d'ailleurs. On a parlé à Bastian il n'y a pas longtemps, il a dit que pour ce film, ils ont vu, enfin pour le spécial, ils ont vu 750 films. Si Hermoser, c'est dans le top 10 de ce qu'ils ont vu, dans le top 9 de 750 films, je n'ose pas imaginer le pire. Parce que c'est un très mauvais film. Le message est louable. Le message est louable, effectivement, la peine de mort c'est mal,
le message est louable, mais la manière de le traiter est complètement absurde.
Le message est louable, mais il y a des bonnes manières de faire passer un message, et quand au final...
Quand tu as envie de claquer, de buter tous les personnages à la fin, pour un message anti-peine de mort, c'est un peu raté, quoi, tu vois, c'est un peu le problème, quoi.
Mais en même temps, les personnages sont assez détestables, hein.
Bah oui, mais tous, c'est
la famille.
Ils sont tous détestables.
La mère, ouais, vous la trouvez.
La mère.
La belle-mère, du coup, ouais.
Même elle. La fin, cette dernière scène.
Voilà. Bon, en tout cas, ouais, c'est pas. Ça nous a semblé suffisamment intéressant pour poser quelques questions à Sati Yoshinori en termes de thématique. Du coup, vous pouvez lire notre interview à côté. Par contre, regardez plutôt La Pendaison d'Oshima. Si vous voulez voir un film sur la peine de mort,
même autre chose, hein, même Dragon Ball Super, c'est plus intéressant sur la peine de mort que Hermoser.
Non, mais Dragon Ball Super sur la peine de mort, très bien.
Même Rings.
Bon, on va rester du côté des mères encore, parce que c'est une thématique importante du festival avec le planning familial en Chine avec 500 mètres, 800 mètres. Elias, tu es notre pitcher,
notre résumeur du festival. Alors, en gros, du coup, 500 mètres, 800 mètres, c'est l'histoire d'une communauté en Chine dans l'endroit, enfin, je sais pas comment, c'est un massif, je sais pas comment on peut dire, les Trois Gorges, c'est...
Dans la région des Trois Gorges,
Trois Gorges, montagneuse, en Chine, où, en gros, les habitants de plusieurs villages qui sont en hauteur sont forcés par l'État chinois à déménager en bas de la montagne pour des raisons écologiques afin de transformer les Trois Gorges en parc naturel.
Ouais, surtout en barrage géant, c'est ça le truc à la base, et du coup il y a une préservation naturelle qui se fait aussi, mais qui entraîne une énorme migration. Et c'était au deuxième moitié des années 90, fin des années 90, donc c'est là où se passe le film.
Une petite famille dans le village chinois qui attend un second enfant parce que le film se passe à l'époque où c'est vrai que maintenant ça a été enlevé, là, l'enfant unique, mais ce film se passe à l'époque où ça l'était encore.
En 2006, on apprend toujours beaucoup de choses au film du FICA.
C'est
un des avantages.
sauf que à l'époque où il y avait. À l'époque où se passe le film, les habitants des villages au-dessus de 800 mètres, donc où habite la famille, avaient le droit d'avoir un enfant. Un second enfant, je veux dire. Sauf que, évidemment, en déménageant en bas de la montagne, ce droit va donc être enlevé à la mère qui est enceinte d'un enfant depuis plus de 100 mois et est donc contrainte de l'abandonner. Donc, du coup, cette mère va lutter pour pouvoir garder son enfant. Et à côté de ça, on a aussi des petites des scènes sur le clivage des générations avec notamment un personnage, le grand-père, qui refuse de quitter sa vieille maison. Et voilà, donc, comme j'ai pitché, j'ai vous laissé.
Ouais, moi je trouve que c'est un film esthétiquement qui est très intéressant, très maîtrisé.
Très belles images.
Certainement le meilleur film de la compétition.
Du coup, le
début est très contemplatif. Il y a une utilisation notamment d'un jeu sur les échelles qui est assez impressionnant.
Sur le format, en fait. C'est un format large, mais en disant qu'il enferme souvent son cadre et ses personnages dans un cadre qui fait presque penser à du 4 tiers avec les portes et tout ça. Et du coup, il joue avec les formats, mais en utilisant le décor, quoi, donc c'est intéressant.
Voilà. Tout à fait, et c'est d'autant plus impressionnant que c'est un premier film. Alors, je suis en train de lire sa bio en même temps, et c'est étonnant parce qu'apparemment, il a fait, après ses études, il a participé au Dogme 95, donc de l'argent de triage. Je ne sais pas ce qu'il a fait, donc c'est, ça a creusé. Donc le réalisateur s'appelle Yao Tian. On n'a pas fait des recherches assez approfondies, comme on est, encore une fois, juste, on donne nos avis à chaud sur, sur les films. Mais du coup, c'est à l'opposé, par contre, de l'esthétique du Dogme 95. Hein. C'est vraiment une image qui est extrêmement très maîtrisée. Belle,
de beaucoup maîtrisée, comme ça se passe dans les montagnes, on utilise beaucoup les nuages, les fumées, ouais, la fumée, les nuages, là. Donc c'est une image très vaporeuse, avec les aussi, ils utilisent beaucoup aussi les éléments météorologiques, quoi, c'est souvent dans la brume, et puis dès qu'il y a un petit peu de lumière de soleil, il va utiliser ça comme espèce de filtre qui va couvrir l'image. C'est assez intéressant, c'est vachement, c'est assez joli, quoi.
Et du coup, ça montre qu'on peut avoir un propos intéressant sur l'histoire de la Chine et sur encore l'actualité sociologique
tout en faisant des efforts de mise en scène,
tout en ayant une vraie mise en scène et en proposant du vrai cinéma,
n'est-ce pas, cette Yoshinori.
Voilà, donc c'est 500 mètres, 800 mètres, bah c'est un film dont on serait ravi d'ailleurs de reparler. Je pense que ça peut sortir un peu confidentiellement en France. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose d'ailleurs sur le
film. Je ne parlerai pas du coq, mais
non, bah, tu n'en parleras pas. Très bien, parce qu'il y a un animal qui est tué dans le film.
Voilà, Nicolas fait son tuement vegan. Il fait
une prétérition et du coup...
Je suis pas vegan.
Ouais, hashtag
go vegan.
On a eu un long débat sur la morale en fait, et la possibilité de tuer un animal à l'écran suivant les intentions d'un film. Mais donc, âme sensible, abstenez-vous, il y a un coq qui est tué dans ce film.
Et ébouillantez-y, hein.
Voilà.
Miskine le coq.
Mais il n'y a pas que ça. Du coup, du planning familial, on va passer à une thématique qui est assez proche dans le film iranien qui s'appelle Being Born de Mohsen Abdovahab. Il y a une caméra sur le programme que je n'arrive pas à lire, donc je m'excuse si je n'ai pas réussi à le dire correctement. Pourquoi est-ce que finalement c'est pas si loin que 500 mètres, 800 mètres, Nicolas, au niveau de l'histoire?
Parce que ça parle...
Parce que Lia s'est endormi pendant le début du film, apparemment.
c'est pas tant que ça de choses en commun, quoi. Enfin, il y a une histoire de forcément de...
C'est juste pour la transition que je dis ça.
Non, mais d'accord. Non, mais en fait, donc Being Born, c'est un film donc iranien qui parle du débat de garder un enfant... dont on n'a pas besoin, enfin dont on n'a pas forcément envie
financièrement, parce qu'il en a envie
Ouais, il n'en a peut-être pas envie du tout d'ailleurs, parce qu'il veut vivre sa vie, le père et tout.
Mais elle en a envie.
Non, mais lui, il n'en a pas envie.
Lui, c'est qu'il a fait couille.
Et donc lui, il n'a pas forcément envie d'un deuxième enfant, parce qu'il est réalisateur et que...
Donc il n'a pas de thunes.
Et il n'a pas de thunes, et qu'il a envie de continuer à vivre sa vie, et qu'il dit bah, un enfant ça suffit bien.
Elle... Voilà, c'est un couple qui est déjà assez âgé, du coup, voilà. un garçon.
Un garçon, oui.
Je commence à mélanger un peu les films.
Ou alors il est lesbienne, c'est une vie.
Ouais, qui a 8 ans. Mm-hmm. Donc voilà, et ça fait... Donc apparemment, il y a un accident qui se produit. Et du coup, l'idée du couple, à la base, donc, qui est de classe moyenne, mm-hmm. Elle est actrice, sa carrière commence à décoller... Lui est réalisateur apparemment indépendant de documentaires assez engagés sur la société iranienne. Mm-hmm. Ils vivent à Téhéran.
Je voyais plus genre crime avec Morandini sur une Rilouze, moi, ce qu'on demande.
Alors, je crois que son producteur lui demande ça, ouais. Mais du coup, lui veut faire autre chose. Et donc, il se trouve dans une situation financière où, voilà, où finalement, une vie d'artiste, mais qui est pas, où ils ont pas énormément d'argent. Et du coup, l'idée, et une des toutes premières scènes, il l'emmène pour un avortement, voilà. Qui ne marche pas. Et à partir de ce moment-là, la femme va décider de garder l'enfant, alors que son mari ne veut pas de ses enfants.
Et donc, c'est là d'où part le point de départ des disputes. Qui vont s'intensifier tout le long du film, alors en plus derrière, donc tu disais en sous-texte, il y a cette histoire de censure iranienne, elle qui doit jouer dans une pièce de théâtre, mais finalement cette pièce de théâtre est annulée parce que il y a un rôle un peu trop véhément entre guillemets.
On arrive en fait au moment, si vous avez vu le dernier film d'Edgar Farhani, Il y a exactement la même thématique, c'est-à-dire que la pièce est écrite, la pièce commence à être montée, et il y a les censeurs qui voient la pièce, et ensuite qui discutent avec le metteur en scène pour savoir ce qui est, ce qu'on peut garder, ce qu'on ne peut pas garder. Et là, effectivement, il y a un personnage qui doit être enlevé complètement de la pièce. Donc effectivement, il y a cette thématique, cette interrogation sur ce que l'on peut montrer dans un film iranien par rapport à cette mise en abîme sur le théâtre.
Voilà, donc ça pour dire qu'il y a plein de thématiques intéressantes à aborder, comme souvent dans les films iraniens, mais qu'au final le film ne sort pas forcément des sentiers battus par rapport à ce qu'on a déjà vu, notamment chez Faraday, mais chez d'autres aussi, chez Parnaï par exemple, ou sur certains thèmes, et du coup, Jaffa, Panahi, c'est ça ?
Panahi.
Pardon, j'ai pas dit Panahi. Et du coup, c'est pas un film inintéressant. C'est pas un film qui va proposer autre chose, quelque chose de nouveau dans la réflexion sur les problèmes de censure, les thématiques de l'avortement par rapport au caractère religieux et tout ça, donc c'est assez intéressant, mais bon, c'est pas...
Non, c'est vrai qu'on est assez proche de ce qu'on a l'habitude de voir du cinéma indépendant iranien. Après, moi, je trouve que c'est plutôt maîtrisé, que la thématique est abordée d'un angle assez original, et puisque justement les deux ont leur raison, finalement la solution est pas si simple que ça, on prend pas forcément parti pour l'un ou pour l'autre dans le film, et ça c'est plutôt intelligemment fait, le fait de pas être dans une espèce de dichotomie, il faut être pro avortement, mais en même temps
c'est final montre un choix un petit peu quand même.
Ça montre une solution, qui est une solution qui est pas plus évidente.
Et une solution, mais une prise de position du réalisateur. Au final, il y en a un, on a le qui est triste et pas l'autre, quoi.
Il a.
Au final, à la fin du film, le réel montre bien qu'il y en a un des deux qui est triste et l'autre.
Oui, c'est vrai. Mais alors là où je dis que c'est contrebalancé, par exemple, parce que c'est, on va pas le raconter, du coup, le personnage qui est triste ou pas. Mais par exemple, il y a différents points de vue de la société. Il y a notamment une collègue à elle. Qui est une femme qui décide de ne pas avoir d'enfant et qui l'explique très bien et qui expose son point de vue et qu'elle a complètement épanouie, etc. Et du coup, ne serait-ce que d'avoir ce portrait et cette discussion et d'avoir ce caractère un peu large sur la question, c'est quelque chose qui est intéressant, plutôt bien traité dans le film. C'est pas tant sur la moralité à la fin que finalement, effectivement, c'est pour ça qu'il y a une solution, un arrangement entre les personnages. Mais le réalisateur montre différents points de vue,
et aussi une petite histoire qui est très
tous plutôt bon, quoi.
Une histoire qui est très mignonne aussi, qui est dans le film, qui est pas, enfin qui est un peu vraiment rajoutant en plus, qui a pas vraiment de rapport avec l'histoire principale, etc. C'est des petites histoires d'amour entre enfants de 8-9 ans qui est très mignonne, genre sur du coup l'enfant des deux qu'ils ont déjà, pas celui qui va naître. Et amoureuse d'une de ses, enfin de la fille d'un ami à son père, elle va essayer de la séduire alors qu'elle est amoureuse d'un acteur coréen qu'elle a vu sur la
télé. Et non, ce n'est pas Gong-Yu.
Sur la télé. Mais il a un nom genre Gong-Yu, donc ça qui est drôle en plus. Et je trouve ça assez mignon, enfin je trouve ça assez bien fait, c'était rigolo et c'est presque le préféré du film, ce qui est un peu dur pour un film qui traite pas tout ça, mais je trouve que c'est une scène super mignonne.
On sous-main aussi, puisque ça parle, c'est assez bien incorporé dans le film. Donc voilà pour Being Born, donc le film iranien, je ne vais pas redire le nom du réalisateur. Et on va passer au dernier film. Là, du coup, on est vraiment passé du côté du père, après les mères, dans les thématiques de Vesoul, avec Baby Beside Me de Song Tae-gyum.
Alors, celui-là, j'ai pas dormi, donc du coup, je peux le cacher. Cool.
Alors, Baby Beside Me...
C'était meilleur que nous, pour les résumer.
Baby Beside Me, c'est gros... Enfin, pas grosso modo, non, c'est l'histoire d'un papa qui a un enfant qui est en bas âge, il doit avoir un an, même pas un an, qu'il a eu, enfin, avec sa... qui, en fait, est tout récemment revenu de son service militaire en Corée. Et donc, il arrive avec sa femme, avec sa mère dans sa petite maison. Elle fait son petit bébé, et un jour il découvre que le bébé est de type B, alors que lui et sa femme sont de type O. Donc du coup il se dit, tiens, c'est peut-être pas mon enfant. Quelque chose qui est confirmé juste après. Et juste avant qu'il ose confronter sa femme à propos de qui serait le père du bébé, parce que c'est vraiment pas lui, c'est pas lui, c'est obligé, sa femme disparaît, et sans donner de nouvelles à personne. Et du coup il se retrouve à s'occuper de son bébé, à tenter de retrouver sa femme qui a totalement disparu, a priori il n'a donné aucune nouvelle à personne.
Enfin,
a priori, selon c'est ce que j'ai dit, a priori.
Avec en plus des problèmes familiaux, mmh.
Parce que sa mère a des problèmes de santé.
Sa mère est malade.
Elle a un cancer, quoi.
Son frère est un connard.
Son frère est un connard, sa mère.
du coup, c'est pas cool la vie pour lui.
Et en fait, justement, je pense que Bibi's Enemy, c'était un peu. C'est un bon film, hein, j'ai rien à dire contre. Je trouve que c'est un film. Avec quelques scènes. Après, justement, parce que j'ai un mais. Donc. C'est un film qui a quelques scènes que je trouve très jolies, notamment les scènes avec juste le père et l'enfant. T'en as une que je trouve super jolie, qui est celle où il y a l'enfant qui joue une espèce de piano jouet avec lui, avec la voiture, qui est très jolie sur le rapport entre le père et du coup l'enfant qui n'est pas de lui, mais sur lequel il est quand même attaché parce qu'il pensait qu'il était de lui jusqu'à présent, du coup il n'ose pas le. Mais le film souffre de ce que maintenant, à partir de maintenant, je vais appeler officiellement dans les podcasts le syndrome Hermoser, qui est que tous les personnages sont insupportables. Il n'y en a pas un seul qui tu te dis tiens il sauve la nuit, enfin il sauve la nuit, etc. Ils sont tous cons, ils sont tous chiants, ils sont tous méchants, ils ont tous des réactions qui sont totalement absurdes et ça rend pas détestable mais totalement en gros en fait on n'arrive pas à rentrer dans le film à cause de ça.
Bah, en fait, c'est ce qui m'a un peu plus dans le film. Pour rebondir là-dessus, c'est que ça fait partie de ces films coréens qui donnent une vision de la société coréenne assez noire et très renfermée sur elle-même, très un peu égoïste, quoi, où tout le monde pense qu'à sa gueule.
Ça va, c'est pas Naunjing non plus.
Non, enfin, mais on n'est pas très loin quand même. Tu sens la violence des rapports entre les personnes.
Oui, mais
quoi.
Il se trouve que et lui est un personnage qui arrive de manière qui est complètement immature quand même au début du film. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il se prend la réalité en pleine face dans le film. Et après, c'est sa maturation et la manière dont il va arriver à devenir père, à accepter, accepter le réel, quoi, sortir de l'enfance, alors qu'il a fait le service militaire, où finalement, il se plaignait, mais il aimerait bien y être, parce qu'il devait juste suivre les ordres, ce qui est un moment. Mm-hmm. Et du coup, là, il se retrouve dans la vraie vie, où il doit prendre des vraies décisions par rapport à des choses qui sont assez importantes. Du coup, moi, je trouve pas que ce soit si noir que ça. Enfin, c'est,
non, parce que la fin...
Je trouve que tout le monde est méchant, quoi. C'est tout. Pas noir la société, mais genre quand tout le monde se fout de la gueule du personnage principal et que c'est aussi bien son frère que la pote de sa copine, que sa mère font passer leur temps à lui dire t'es terminable, t'es un as, etc. Je me dis miskine quoi.
Parce que c'est une très bonne famille qui te soutient.
Peut-être.
C'est un peu le problème. En fait, ce que je veux dire, c'est que le.
Même ses copains n'arrêtent pas de lui dire que sa meuf c'est une pute.
Voilà, c'est ça. Là, genre... T'as l'impression qu'il est le seul
C'est des petits jeunes, ses copains, et du coup ils n'ont pas la même maturité que lui est obligé d'avoir très très vite. Mmh. Donc oui, effectivement, il dit juste ouais, tu lui fais larguer, le gamin il est pas de toi. Enfin,
même à 16 ans, si ça se passe, personne ne parle comme ça quoi. Genre, c'est pas normal. Enfin, je suis désolé, quand c'est pas quelqu'un, je le respecte. Enfin. Peut-être on parlait comme ça, dans ce cas-là, Victor, je suis désolé pour toi, mais en tout cas, c'est pas ce qui me. Enfin, et le pire, c'est que le réalisateur, qui est très mignon d'ailleurs, il a dit désolé, si mon film a des maladresses, je trouve ça super mignon.
Oui, la présentation du film, il a dit il est pas génial mon film, mais voilà, j'espère que vous les excuserez, les maladresses.
Et il a dit que l'histoire du film est inspirée de ce qui arrivait à un ami à lui, et j'en avais vraiment le pauvre.
Le pauvre, t'as envie de dire. Alors, change d'amis quoi. Enfin,
ouais. Non, pas change d'amis.
Sauf le réalisateur, lui, peut-être. Mais...
J'ai lui des câlins, acheté du chocolat, enfin, peut-être que ça va aller quoi, gambatté.
Il s'est foutu de sa gueule, il a écrit son histoire.
C'est ça, c'est le réel qui s'est foutu de sa gueule.
Voilà. Non, mais quand même, ça fait partie. Je pense que.
Bah, moi, disons que là, vu la qualité assez faible de la sélection compétition, ça fait partie d'un peu du haut du panier. Mm. Même si c'est pas un film aussi formidable non plus. Enfin, la mise en scène est quand même assez bateau, quoi. Il y a pas.
Assez bateau, mais j'ai trouvé que pour une fois, il y avait une vie dans la mise en scène.
Non, il y a une vie, mais c'est du Darden style, quoi. Enfin, on a déjà vu.
Du Darden style.
Darden style, tu vois.
Darden style.
Il faut le dire avec l'accent belge.
Non, c'est bon. Non mais voilà, enfin, c'est...
Donc pour expliquer pour ceux qui n'ont pas compris, le style d'Ardenne.
Merci, Victor. Mais c'est un film que j'aurais oublié dans une semaine, quoi, même s'il y a des choses intéressantes, le problème, c'est, on n'en a pas parlé, mais c'est que les personnages, ils parlent pas, quoi. Enfin, il y a des moments où tu dis, mais ouf ta gueule, parle, dis quelque chose, énerve-toi.
Fais des podcasts.
Jette le bébé sur la route.
Non,
tu
pourrais dire une telle phrase à tel moment, ça changerait, ça débloquerait la situation, tu vois. Mais non, il garde ça pour lui. Et tu te dis, mais tu sens que c'est pour que le film dure un peu plus longtemps, artificiellement, quoi. Que voilà, ça fait
pas. Ça crée une tension dramatique. Ouais. C'est un peu le cas d'ailleurs dans Going the Distance. Du coup, effectivement, il y a Donc l'histoire de Gong Xiaodisten, c'est je vais en parler. Donc un homme qui se retrouve dans une situation où sa femme veut avoir un mariage très rapide parce que sa grand-mère a Alzheimer et va l'oublier. Et du coup, à cause de lui, un de ses amis se retrouve dans une situation économiquement, enfin il se fait avoir par un mec qui lui a présenté, donc il se sent responsable et va se mettre à l'idée et à l'aider. Et du coup, il n'y a pas du tout de lien entre lui et sa femme. Il lui parle pas du tout de la situation. Il se cache pratiquement pour agir. Et en fait, c'est cette incommunicabilité qui crée des dissensions dans le couple. Et du coup, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans Baby Lisa and Me, cette création d'une distance entre deux personnages, mais juste par le fait qu'ils ne communiquent pas, ce qui peut être un propos qui parfois correspond à certains caractères, mais en vrai est un élément qui crée narrativement de la dramaturgie et qui épaissit un peu le scénario de manière un peu artificielle et un peu gênante. Et c'est vrai que parfois on a envie de dire au personnage, en fait, il vous suffit de parler et puis vous allez régler vos problèmes parce que finalement le fait de ne pas parler ne fait que les augmenter. Mais c'est vrai que le film en serait d'autant plus réduit et les nœuds dramatiques seraient un peu moins importants. Donc c'est aussi je pense que quand il parlait de maladresse, il pouvait parler de ça comme sont des deux premiers films. Donc effectivement, dans l'écriture, il y a quelque chose de très sincère, de très immédiat dans la mise en scène aussi. Et là, je parle vraiment des deux films. Mais effectivement, cette maladresse de l'écriture où on voit un peu les ficelles. Voilà. Parfois, on voit les ficelles, on voit très bien comment c'est fait pour que la situation aille d'un point A à un point B. Donc voilà, c'est ça.
C'est des cordes, quoi.
Oui, si on veut. Après, c'est aussi un point positif. Je me rends compte combien, alors point positif ou pas, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tout jeunes réalisateurs. Je crois qu'il y avait quasiment que des premiers films, en fait, 500 mètres.
Non, Mother, c'est un troisième film.
Alors, Mother, c'est un troisième film.
Ah merde, c'est sûr, on devrait voir les deux premiers.
on va parler de ceux qui nous ont plutôt plu. 500 mètres, 800 mètres, c'est un premier film. Baby Beside Me, c'est un premier film.
C'est les deux meilleurs.
Shubhashish Bhutiani, aussi réalisateur de Hotel Salvation, c'est un premier film. Et si on a dit qu'on aimait pas du tout, pas trop, du coup,
au final, Hotel Salvation, on a dit quand on parlait de Mother, c'est méchant. Pas ce que c'est, non voilà.
Donc, quand on a parlé de Hotel Salvation,
on s'est dit que c'était pas si méchant,
mais c'est ça. Et puis le film se tient visuellement pour le coup.
En fait, le film aurait été mauvais l'année dernière quand il y avait Tarlo et Being Good, mais là cette année, du coup, c'est un bon film pour faire le reste de la sélection.
Et même Being Born, le film iranien, est aussi un premier film. Donc voilà, c'est peut-être aussi c'est peut-être pour ça qu'on a, on est très critique et on est un peu déçu par la sélection officielle. Mais c'est des tout jeunes réalisateurs en termes d'expérience. Mmh. Certains, il y en a beaucoup, notamment les Japonais, qui viennent de la télé, par exemple. Donc il y a encore des codes très télévisuels qui sont employés, peut-être qu'avec un peu plus d'expérience dans le cinéma, ils auront un langage plus proprement cinématographique qui va se créer, en tout cas on l'espère.
Je pense pour le réalisateur de Hermoser, c'est mort de base.
Ouais, bon, Hermoser, on l'a compris, c'est notre pick The Dark Wind aussi, c'est un film qu'on a pas aimé, mais bon, les autres, on n'a pas vu Lost Daughter du tout, le film taïwanais. J'en parle parce que justement, sans l'avoir vu, c'est aussi un premier long métrage. Donc c'est vraiment des premiers films qui étaient mis en avant cette année.
C'est une bonne chose, malgré tout.
Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur la sélection officielle, du coup. Parce que là, on a fait le tour. Bon, très bien.